pour investir sur BFM Business. BFM Business au rendez-vous des élections européennes. Technologie, industrie, agriculture, écologie et défense, Good Morning Business vous aide à mieux comprendre les enjeux du scrutin. Décryptage, débat et reportage, Good Morning Business vous accompagne jusqu'au résultat. Good Morning Business, spécial élection européenne, avec Laure Clausier, tous les lundis à 8h, avec La Tribune, sur BFM Business et RMC Découverte. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming. Tout pour investir, la place de l'IMO.
C'est l'heure de retrouver notre grand rendez-vous IMO du jour. Marie Cœur de Roy, notre spécialiste maison. Bonjour Marie.
Bonjour Antoine.
Toujours. Beaucoup de plaisir d'être avec vous. Et puis Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta.
Merci. Bonjour Antoine, bonjour Marie.
Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui?
Moi, j'avais besoin des lumières de Norbert pour qu'on parle de notre cher et tendre ministre du Logement qui nous a quand même présenté son projet de loi Logement Abordable. On ne va pas revenir sur la situation actuelle sur le marché de l'immobilier et du logement au sens large. Déjà, en ce qui vous concerne sur le neuf, est-ce que vous avez le sentiment, Norbert, qu'à l'intérieur de ce projet de loi, il y a des dispositions qui sont susceptibles d'aider le secteur ou pas? Et si oui, lesquelles, évidemment?
Alors j'ai commencé par répondre à la question que vous ne posez pas, Marie, c'est la situation de l'immobilier neuf au premier trimestre. Parce que ça me semble la pierre angulaire pour répondre à la deuxième question, à quoi sert le projet Casbarian. Premier trimestre, vous avez eu les chiffres de l'ancien il y a deux jours avec le président de l'AFNAIM. On est en gros sur les métropoles et le président de l'AFPI annoncera ça dans l'hebdomadaire.
La Fédération des promoteurs immobiliers.
Exactement. Pascal Boulanger, on est en gros à moins 50, moins 70%. Donc c'est un effondrement entre le premier trimestre 23 et le premier trimestre 24. Ouais, c'est des chiffres qui font peur. Et pour illustrer, parce que ça fait tellement peur, prenons une ville comme Montpellier. Montpellier, 300 000 habitants. Il y a 3 ans, on faisait 3 réservations par jour. Au premier trimestre 24, on fait une réservation, mais tous les 3 jours. Donc vous voyez, l'attrition du marché est très forte et on sort d'une année 2023. On était déjà à moins 45% par rapport à ce qu'on fait d'habitude.
Norbert, moi quand je vous entends donner ces chiffres-là, j'ai toujours la... C'est à cause de quoi? C'est quoi? C'est les gens qui veulent plus acheter, qui peuvent plus acheter. C'est la capacité à construire qui est réduite. C'est quoi le problème?
En fait, le chiffre un peu nouveau, et c'est en ça où je pense que l'erreur du ministre du Logement, l'erreur de diagnostic qui, quand il passe sur les plateaux, nous parle d'offres, il ne traite pas la demande. Et ça, c'est un peu notre problème. La vraie nouveauté de ce marché de début d'année, ce sont les retraits. Les retraits, c'est quand on lance commercialement une opération immobilière et qu'on la retire parce qu'on n'arrive pas à la vendre ou parce qu'on n'arrive pas à l'équilibrer économiquement.
Parce qu'on n'a pas suffisamment de pré-réservation, c'est ça ?
Parce qu'on n'a pas suffisamment de pré-réservation, parce que quand on fait le coût travaux, on voit que si on lance les travaux, on perd de l'argent. Donc on est un peu bête dans la promotion immobilière, mais pas de là à perdre de l'argent. Et donc, au premier trimestre, il y a autant de retraits que sur toute l'année 2023. Donc le vrai phénomène dont on est en train de se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de logements en offre. On a tous beaucoup de permis de construire. On a dans le groupe Gambetta des centaines de permis de construire, mais qui n'ont pas d'équilibre économique aujourd'hui parce qu'effectivement la demande n'est pas au rendez-vous. La demande n'est pas au rendez-vous parce que il y a un vrai attentisme par rapport à la question que vous posez. Les taux sont en train de se stabiliser, mais la confiance dans l'immobilier n'est pas retournée. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'on est sur des prix de revient qui n'ont pas vraiment bougé, les coûts de travaux n'ont pas encore baissé.
Pour l'équilibre financier, c'est quoi qui pose problème aujourd'hui? C'est le prix du foncier? Parce que si vous nous dites que vous avez des permis de construire, en veux-tu, en voilà, a priori, à un moment donné, on parlait de la frilosité des maires à accorder les permis, des plans locaux d'urbanisme qui étaient complètement farfelus ou qui étaient modifiés à la marge et n'importe comment. Là, en l'occurrence, vous nous dites, c'est plus les élus locaux qui pose problème, c'est quoi? C'est le prix du foncier? C'est le coût des travaux? C'est les matières premières? Qu'est-ce qui déséquilibre l'opération, en fait?
En fait, c'est l'accumulation de tout ça et l'accumulation du fait que la demande n'est pas aidée, n'est pas traitée. Et c'est bien ça, tout ce qui manque dans le projet du ministre Casbarian. Et on reviendra sur aussi les côtés positifs. C'est le PTZ a été divisé par deux. Le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété est passé de 1,2 milliard en budget à 600 millions. Le Pinel, donc tout ce qui aide les investisseurs privés à revenir sur le logement et à décompenser la fiscalité abusive du logement,
disparaît.
En fin de vie, et est beaucoup moins intéressant qu'il y a 2-3 ans. Il n'y a pas de perspective derrière. Et donc, c'est tout cet ensemble psychologique qui fait que les gens attendent. Attendent quoi?
Baisse des prix.
Baisse des prix. J'ai vu aussi votre intervenant hier. Moi, j'y crois pas. Une baisse des prix quand on a une augmentation des salaires comme jamais on a eu depuis 3 ans. Une épargne, 95 milliards de surépargne. On a 4000 milliards en tout. Et depuis 3 ans, on a 100 milliards en plus. Et sans parler de l'inflation qui a rogné sur la hausse des prix, il n'y aura pas de baisse des prix. Il faut arrêter de croire à ça. Et donc, le vrai sujet, si on veut relancer l'immobilier, après on peut se poser la question à quoi c'est utile de relancer l'immobilier, ça sera d'aider la demande.
Oui, mais ça crée un effet. Enfin, je vais me faire de l'avocat du diable. Hein. Vous connaissez mes positions, Norbert, mais... Financer, subventionner comme ça pouvait être le cas, ça avait aussi un effet inflationniste sur les prix. Donc à un moment donné, c'est quoi la solution? Vous nous dites qu'on n'a jamais eu autant d'augmentation de salaire et pour autant, les gens quand même ont perdu en capacité d'emprunt, ont perdu en capacité d'achat. Et les prix continuent à augmenter, en tout cas dans le neuf.
Alors les prix n'augmentent plus.
Hein, il se stabilise.
Il se stabilise et je pense que quand Loïc Quentin parle de 5% de baisse de prix sur 2024, ça sera aussi vrai dans le neuf comme dans l'ancien.
Et ça serait lié à quoi, ça, la baisse des prix dans le neuf, du coup?
On se réadapte forcément au marché. On va tous chercher une baisse des prix. Donc nous, dans le Gambetta, vous savez, Marie, qu'on porte beaucoup tout ce qui est TVA réduite,
ouais.
Tout ce qui est BRS, tout ce qui est accession à la
propriété. Bail réel solidaire. Ouais.
Bail réel solidaire, donc qui permet d'avoir une TVA 5,5 à la place d'avoir 20%. Donc forcément, ça va faire...
Mais se réaligner de manière générale parce que même sur des effets de court terme, on est bien obligé de se réaligner niveau prix.
Ça, c'est clair. Et puis, il faut faire revenir les clients. Il y a des offres promotionnelles chez beaucoup d'opérateurs.
C'est la foire fouille, là. On en parlait avec un spécialiste du logement neuf. Il me disait, on va sur tous les sites des promoteurs, type Kaufman, Nexity, ils vous offrent la pièce en plus, ils vous offrent la compensation de la disparition du Pinel, les frais de notaire. Non, mais c'est un truc
ça, c'était en 1995. Ça pourrait revenir, Antoine, je m'en souviens, c'était une histoire.
Mais ça veut dire quand même que malgré tout, il y avait... Encore une fois, je me fais l'avocat de Didier Norbert, mais ça veut dire qu'il y avait quand même de la marge suffisante pour les promoteurs pour baisser encore les prix?
Non, la marge, on est en train de la retrouver sur la négociation, sur certains, sur le prix du terrain, et sur d'autres, sur le prix des travaux. En fait, la renégociation, elle se fait au cas par cas. Et si on vient sur le projet Casbarian, il a 3 grands domaines, dont un qui est effectivement de réconcilier les maires avec le logement. En fait, on est parti d'un principe ou d'un crime originel, si vous me passez l'expression, sur la suppression de la taxe d'habitation. Le Premier ministre nous a dit « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ». Ben, la taxe d'habitation, c'était « tu consommes, tu payes ». Et en fait, en supprimant la taxe d'habitation, on a supprimé le lien entre la population locale et le fait que plus il y avait de logements, plus les communes étaient riches. Plus il y avait de logements, plus on pouvait avoir de services, plus on pouvait bénéficier de l'aide de la collectivité.
Mais elle n'est pas compensée, cette taxe d'habitation, Norbert? On nous avait dit qu'elle était compensée.
Semi-compensée.
À l'euro près, même.
Voilà, 6 millis compensés. Mais donc, un des piliers de la loi Casbarian, c'est de réconcilier les maires avec la construction neuve. Mais ce n'est pas d'aider financièrement les communes. C'est sur des sujets d'attribution, sur des sujets de prérogatives sur les fonciers. Et donc, un sujet, si on veut faire plus d'immobilier neuf, c'est que l'État investisse de l'argent. Quand Bruno Le Maire cherchait 20 milliards en début d'année, ils sont où ces 20 milliards? Ils sont dans les 90 000 logements qu'on n'a pas construits l'année dernière. Quand vous faites 90 000 fois 250 000 euros, vous trouvez 20 milliards. Et on peut déjà lui dire que si le marché continue à baisser comme ça, on sera autour des 80 000 unités cette année et qu'il va lui manquer encore 10 milliards d'euros au début 2025. Et donc, le sujet global, c'est est-ce que l'État met de l'argent, investit, pour effectivement avoir le retour sur l'activité économique. Et dans cette loi Casbarian, on a aussi des sujets très techniques, mais qui vont avoir des effets très long terme. C'est une loi, objectivement, solide, bien faite, portée par un ministre et son cabinet très dynamique, mais avec des effets très long terme par rapport à ce qu'on est en train de vivre au quotidien.
Par exemple, sur les recours, est-ce que c'était nécessaire aujourd'hui? Est-ce que c'est pas juste de l'affichage?
Non, moi je trouve que sur les recours, sur les lotissements, sur aider à la production de plus de logements intermédiaires, je trouve que ce sont des bonnes mesures. Et c'est en ça où le ministre et son cabinet ont écouté les professionnels.
Mais c'est pas à la marge ça, est-ce que c'est à la hauteur de la crise que traverse le secteur? Je vous parle de ça, c'est pas une insulte, hein, mais moi ça fait que 10 ans que je traite ces sujets-là. Vous, ça fait un petit moment de plus quand même.
Le double.
Et Dieu sait que moi j'ai l'impression d'avoir parlé de la réduction des recours, de machin, de trucs. C'est depuis des années, le fameux choc de l'offre qu'on nous promet cette année, on nous l'a promis en 2017 lors de la première élection d'Emmanuel Macron. À un moment donné, est-ce que vous pensez que les décisions politiques là sont à la hauteur des enjeux et de la crise que traverse le secteur?
les décisions politiques, elles ne vont rien changer au marché. C'est-à-dire que...
Ça, c'est dit.
Voilà, on était à 160 000 logements il y a 3 ans, on va tomber à 80 000 cette année à peu près, et c'est durable. S'il n'y a pas de relance de la demande, c'est durable sur les prochaines années. Est-ce que c'est grave ? Oui. Est-ce que c'est mortel ? Non. Donc c'est là où toute la question. C'est grave. C'est grave pour les finances de l'État, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il manque de la ressource économique à l'État et l'immobilier aurait pu la fournir. C'est grave pour le vivre ensemble, parce que si on fait moins de logements, on a plus de mal logement, on va avoir une explosion des loyers, du prix des loyers, on le voit déjà. Et Loïc Quentin en parlait très bien il y a 2 jours aussi. Moi, par contre, j'espère que tout ça va nous permettre une chose. Alors, très égoïstement, moi, ça me permet, quand je fais de la TVA réduite, comme on l'évoquait tout à l'heure, de bien vendre ces opérations-là. Bon. Et ça, je mets ça entre parenthèses, parce que ça ne va pas sauver le marché non plus, mais ça fait de l'activité pour moi. C'est que le logement redevienne un sujet politique. C'est ce que vous évoquiez. En 2017, on a parlé du choc de la demande. Mais en fait, on n'a jamais parlé de politique dans les dernières présidentielles. Pas 2017-2022, mais 2012 aussi. Et dans les dernières municipales, les maires bâtisseurs étaient des maires battus. Et peut-être qu'il faut vivre tout ça par une explosion du prix des loyers, par moins de logements neufs, plus de mal vivre. Ensemble, c'est pas forcément des choses très agréables à vivre, mais peut-être qu'il faut parler de ça, passer par ça, pour qu'enfin le logement redevienne un sujet politique.
Ouais, mais alors là, c'est quand même, Norbert, pardon, mais on parle d'un sujet de base. Vous le disiez, le logement, notre capacité à vivre dignement. Enfin, le mal logement n'a jamais atteint. Regardez les demandes. Vous parlez, alors vous bossez beaucoup sur le parc social. Là, typiquement, le projet de loi Kasbarian, il est quand même très très focalisé sur la loi SRU, sur la rotation dans le parc social, etc. Enfin, force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de demandes de logement social, que à date, on a retiré de la trésorerie environ un milliard d'euros chaque année depuis 2018 aux bailleurs sociaux, et que maintenant, on a un gouvernement qui s'étonne qu'il y ait moins de construction et moins de rénovation dans le parc social. À un moment donné, enfin, ok, c'est pas mortel pour vous, mais c'est mortel pour tout un tas de gens qui n'arrivent pas à se loger quand même. Ah oui. Donc on attend quoi en fait ? On attend que les gens meurent sous les ponts en fait ?
C'est en ça où je pense que c'est grave. Et c'est en ça où aujourd'hui on a face, et je pense que on peut mettre le ministre du logement, face à nous on a un mur sur plus d'argent dans le logement. Et ça reprend exactement ce que vous disiez tout à l'heure, si on met de l'aide c'est inflationniste. Moi je crois pas, je crois que si on met de l'aide, ça permet, c'est un investissement et ça permet de faire tourner la machine. Est-ce que vous trouvez normal que quand vous avez du capital, que vous avez un revenu du capital, vous soyez taxé à 30% et que dans l'immobilier, vous soyez au minimum à 55%. Est-ce que, comme le disait la sénatrice Estrosi Sassone, on ne dort pas, on ne vit pas dans un portefeuille d'actions. Alors, moi, je peux le dire autrement, on ne vit pas tous au Palais Brongniart. Donc, est-ce que c'est normal que l'immobilier soit plus taxé que le capital ? Moi, je pense que non. Mais pour le moment, Bercy, le ministre des Finances, ne change pas de ligne. Plus d'argent et on taxe l'immobilier à mort. Et donc tant qu'on n'arrivera pas à cette semi-révolution que vous évoquez, à cette gravité, je trouve que le mot mortel est un peu dur, eh bien on n'arrivera pas à négocier avec Bercy, avec l'État, sur remettre de l'argent dans le système et arrêter effectivement d'être dans le mantra de l'offre. Non, aujourd'hui, il faut traiter la demande, aider la demande.
Mais ça ne suffit pas ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. À un moment donné, on a pris aussi le prisme de l'emploi, de la mobilité liée au logement. On peut prendre aussi celui de l'éducation, des maltraitances. Enfin, il y a tellement de biais par lesquels on peut se rendre compte que du logement dépend tout, y compris l'économie et le plein emploi. À quel moment on se réveille. Là, par exemple, vous parliez de l'équilibre budgétaire, du fait qu'on nous regarde parce que c'est des moindres recettes, pas forcément on a baissé les dépenses, et ah, bizarrement, ça fait baisser les recettes. C'était ce que disait Véronique Bédac, je crois, à une époque, qu'il fallait qu'ils sortent de leur fichier Excel. Est-ce que ça vous donne un argument, peut-être, à faire valoir auprès des pouvoirs publics, de dire, bah, vous voyez, en baissant les dépenses sur les mauvais secteurs, sur les mauvais investissements, et bah, vous réduisez aussi en parallèle, drastiquement, vos recettes.
Et bien, ça vous paraît bizarre, mais aujourd'hui, non. Tout ça n'est pas suffisant. Quand Bruno Le Maire intervient et qu'il cherche les fameux 20 milliards, à aucun moment il dit l'immobilier aurait pu nous rapporter 20 milliards ou on s'est trompé, on aurait pu faire ça autrement. Quand Christophe Béchu est invité à la Fondation Abbé Pierre à la fin de l'année dernière, à aucun moment il y a un mea culpa sur la politique du mal logement. Et donc aujourd'hui, le logement n'est pas un sujet politique. C'est un peu surprenant. Et le ministre le transforme en sujet politique. sa loi, qui est une loi, je l'aurais dit, plutôt technique, plutôt solide. Et en fait, on parle de quoi ? On parle de SRU et de HLM. Mais ce n'est pas le sujet principal de sa loi. Mais il transforme sa loi technique solide en sujet politique. Et c'est pas en traitant le HLM qu'on va rajouter de l'offre sur le marché. On est en train de parler de stock et de comment on gère le stock. Mais c'est pas ça le vrai sujet.
Alors que vous cherchez vraiment des dynamiques de développement plus que des décisions ponctuelles et des ajustements.
Ah, je pense que c'est le vrai sujet. La dynamique de développement, elle répond à la création de richesses pour la société. Et en plus, elle sert le flux. On vit pas tous au même endroit. Et l'immobilier, en fait, c'est tout sauf immobile. On a besoin d'un logement à certains endroits, d'une certaine caractéristique. Quand on a 30, 40, 50 ans, c'est pas le même logement dont on a besoin. Mmh. Et faire du logement neuf, ça permet de créer cette dynamique-là. Et c'est aujourd'hui, je le redis, malheureusement, malgré tout ce qu'on vit, malgré nous, ce qu'on dit professionnel, malgré vous, les journalistes qui alertaient depuis 10 ans, voire plus, eh ben, aujourd'hui, on n'est pas entendu.
Bon,
donc
juste
peut-être
même...
qu'il faut passer par un point bas pour être entendu.
Norbert, quand même un mot. Je sais que vous êtes amusé à republier sur les réseaux sociaux l'un de vos précédents passages où vous disiez que personne n'allait pleurer sur le sort des promoteurs. N'empêche, ça va comment ? Dans le milieu, pas seulement vous chez Gambetta, mais j'ai envie de dire l'ensemble des promoteurs, aujourd'hui, on en est où ? Des destructions d'emplois, des plans sociaux. On va où, là ? Compte tenu des décisions qui ne sont pas prises et celles qui sont prises à la marge, à quoi on peut s'attendre pour ce secteur-là ?
Alors le secteur dans sa globalité, il y a la promotion, mais il y a aussi le bâtiment, forcément.
Ouais.
Et puis il y a tous les services liés autour de la promotion, les courtiers, les notaires, les architectes. Forcément, on est en train de réduire nos effectifs et de réduire nos investissements. Forcément, dans le bâtiment, la FFB parle d'une destruction de 150 000 emplois à horizon 2025. Moi, je pense que la FFB, avec cette destruction d'emplois, est inférieure à ce qui va se passer. Je vous le disais tout à l'heure, je ne vois pas un marché de l'immobilier neuf mieux que 80 000 logements à partir de cette année pour les années à venir. Et donc, on sera plutôt sur une destruction d'emplois de 200 000 emplois sur le bâtiment. Pour tout ce qui concerne la promotion, on réduit tous nos effectifs, c'est comme ça. On a une visibilité qui s'est réduite. Avant, on avait 12 à 18 mois de visibilité. Là, on est à 3 ou 6 mois. Nous, on a fait plutôt un bon premier trimestre dans le groupe Gambetta sur les réservations. Par contre, on a un deuxième trimestre qui commence pas très bien. Et donc, on sait que dans l'ancien, c'est exactement l'inverse. Un premier trimestre pas très bon, mais un deuxième trimestre qui s'annonce mieux. On s'adapte, on se transforme. Mais vous savez, pendant des années, on était le monsieur plus. On nous demandait de faire moins. C'est-à-dire qu'on perdait sur chaque opération, sur chaque terrain, on perdait 30% de constructibilité. C'est quand même dingue quand on nous parle d'environnement et de ZAN. On faisait plus d'environnement, plus que la réglementation, qui est déjà l'une des plus exigeantes en Europe, voire dans le monde. On nous a demandé aussi de rajouter des logements sociaux, de faire de l'accession à la propriété. Et à chaque fois, on disait oui. À chaque fois, ça passait parce que les taux étaient bas, parce que les gens avaient envie d'acheter l'immobilier. Aujourd'hui, ça passe plus. Aujourd'hui, ça passe plus. Il va falloir que tout le monde revoie sa copie, que les aménageurs publics vendent moins cher leur terrain, qu'ils arrêtent la surenchère sur les normes environnementales. Il faudrait aussi qu'on arrête de mettre des boulets aux chaînes, c'est-à-dire de reporter la ZAN, la zéro artificialisation nette, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de maisons individuelles qui sont construites en France. Il faudrait qu'on reporte aussi la réglementation énergétique, qui va supprimer beaucoup de logements sur le marché de la location. En fait, il faut peut-être, je le redis Marie, passer par cette crise pour... comme on dit, changer de paradigme et remettre le logement au cœur de la politique.
Merci Marie Cœur de Roy, spécialiste immobilier maison à BFM Business, et Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta.
Merci.
On a pu prendre le pouls du marché immobilier grâce à vous et du métier de promotion.